Bon matin, tout le monde. C'est encore un privilège pour moi de pouvoir venir partager la parole de Dieu. Et je le fais, comme toujours, avec crainte et tremblement, parce que c'est une grande responsabilité que Dieu donne à des simples hommes comme moi. On va remettre ce temps-là dans les mains du Seigneur. Puis après ça, je vais vous partager la parole de Dieu sur, finalement, ça revient à la doctrine du salut. Prions. Merci, Père Céleste, pour ce privilège de t'appartenir, d'être tes enfants. Merci parce que tu nous as rachetés. On veut se rappeler, Seigneur Jésus, que cette fête qu'on va fêter prochainement, ça remémore ta naissance, mais aussi ça nous ramène, Seigneur, au but ultime de ta venue, Seigneur, la croix du calvaire. Merci, Seigneur Jésus, d'avoir accepté la croix, d'avoir monté sur la croix à ma place. Oui, Père, guide-nous dans ta parole ce matin. Parle à nos cœurs. On te le demande au nom de Jésus. Amen. Alors, ce matin, je voudrais relever une contradiction apparente qu'on retrouve dans les Saintes Écritures, contradiction apparente qu'on trouve dans nos propos, bien souvent à chaque semaine. C'est la différence ou l'opposition entre chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Alors, tous les passages, c'est des passages de l'Ancien Testament essentiellement, qui disent ça. Alors, tous les passages qui disent la même chose et qui se rapportent à ça. Et l'autre notion, c'est « nul ne cherche Dieu ». Alors, c'est Romains au chapitre 3, on va voir ça. Alors, la première des choses qu'il faut retenir dans ça, c'est que l'homme naturel ne cherche pas Dieu. L'apôtre Paul, aux Romains, chapitre 3, versets 9 à 11, il dit ceci. Oui, ça se peut que je t'aille. Comme je t'ai dit, il y a des petites différences, là. Mais c'est pas grave, c'est juste à... Quoi donc sommes-nous plus excellents? Nullement, car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Alors, Romains 3, chapitre 3, versets 9 à 11. Alors, ce passage-là décrit le cœur naturel de l'homme, l'inclinaison naturelle de l'homme. Alors, l'homme, il ne penche pas vers Dieu, mais il penche à l'opposé de Dieu. Son penchant naturel, c'est contre Dieu, le sens inverse de Dieu. Son aveuglement spirituel, son rejet instinctif de la lumière. Dans Genèse, au chapitre 3, le verset 9 et 10, alors ça commence là, la Genèse, c'est le tout début de l'histoire humaine, et la Genèse, ça décrit premièrement la chute, la création, puis après ça, la chute. Genèse 3, versets 9 et 10, « Mais l'Éternel, Dieu, appela l'homme et lui dit, « Où es-tu? » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Alors, là, c'est la chute de l'homme, c'est l'inimitié entre Dieu et l'homme qui s'installe. Puis, qu'est-ce que l'homme fait? Il se cache. Il fuit Dieu. C'est la fuite. C'est là que ça commence. L'apôtre Jean, dans son évangile, chapitre 3, le verset 19, alors, tout de suite après Jean 3, 16, là, il dit ceci, « Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. » Alors, suite à la chute, qu'est-ce qui arrive? Les œuvres de l'homme sont mauvaises. L'homme, il se cache, il préfère être dans les ténèbres. Il préfère être dans les ténèbres parce que ses œuvres sont mauvaises. Il aime les ténèbres plutôt que la lumière. Il ne recherche pas Dieu, ni sincèrement, ni même vraiment. Il ne cherche pas Dieu, tout simplement. Personne ne cherche Dieu par lui-même. Si Dieu ne touchait pas les cœurs, personne ne viendrait à lui. Si Dieu n'avait pas prévu quelque chose d'autre que ça, il n'y a personne qui viendrait à lui. Alors, l'homme est spirituellement mort. L'apôtre Paul, dans Éphésiens, au chapitre 2, les versets 1 et 2, il dit ceci. « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. » Alors, un mort, ça ne cherche pas. Un mort ne cherche pas Dieu. L'homme déchu par lui-même ne cherche pas Dieu. L'homme ne peut pas venir à Dieu par lui-même. Quand nous disons qu'une personne cherche le Seigneur, bien souvent, nous accordons des bonnes dispositions à cette personne. C'est une bonne personne. Parfois, il m'est arrivé de penser qu'une personne serait une bonne candidate pour le salut. J'avais des compagnes de travail, j'ai partagé l'Évangile avec certaines, puis je me disais des fois, ça, c'est une personne que les choses spirituelles, ça est attiré par les choses spirituelles, puis c'est une bonne personne pour le salut. C'est une erreur. Ça, c'est un bon gars. Je pense qu'il c'est un bon candidat pour le salut. Mauvaise façon de voir les choses. Nul ne peut venir à moi. Alors, Jean 6, 44, Jésus dit, « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. » Alors, ça, c'est la première conclusion. Par nature, l'homme ne cherche pas Dieu, ni peut le chercher. C'est le point de départ biblique au sujet du salut, de la doctrine du salut, de la doctrine de la perdition. Alors, maintenant, pourquoi la parole de Dieu nous dit « Cherchez Dieu » ? Pourquoi la parole de Dieu nous dit ça? Bon, premièrement, comme dans tous les autres passages bibliques, bon, ça, cette expression-là, on trouve ça uniquement dans l'Ancien Testament. On va retrouver des exhortations de l'apôtre Paul, des apôtres, des évangélistes, des apôtres, des exhortations à la sainteté, à marcher dans le Seigneur, à venir au Seigneur. L'apôtre Paul, il fait des discours à des Juifs inconvertis pour les appeler au Seigneur. Alors, pourquoi la Bible dit-elle « chercher Dieu » ? Il faut toujours regarder premièrement le contexte. À qui le texte s'adresse, puis c'est quoi les circonstances ? Alors, Dieu offre son secours, puis appelle l'homme à venir vers lui. Alors, Dieu veut que les hommes viennent à lui. Il ne dit pas que l'homme est capable tout seul. Il donne un appel, puis son Saint-Esprit rend cet appel-là efficace dans le cœur de l'homme. Dieu appelle, invite, il ouvre la porte, il tend la main, il éveille les consciences. Dans Ésaïe, chapitre 55, versets 6 et 7, il dit « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. » Alors, de quoi il est question ici? Du salut universel. Puis qu'est-ce que ça dit? Ça dit que c'est Dieu il est ouvert, que c'est disponible pour tout. Alors, ce n'est pas un appel pour les bonnes personnes, c'est un appel pour les pécheurs, pour les perdus. Dans Jérémie, chapitre 29, qui est prophétique, puis s'adresse aux captifs de Babylone. Mais c'est un appel aussi général pour 2025 puis 2026. Le Saint-Esprit travaille dans les cœurs, Dieu voit les cœurs, puis il répond à la foi sincère. Alors, Jérémie 29, il dit « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Alors, si l'homme met sa foi, si l'homme entend l'appel de Dieu, puis répond positivement à l'appel de Dieu, Dieu va toucher son cœur. Dieu va intervenir dans son cœur. Bon, comment réconcilier ces deux choses-là? L'homme naturel ne cherche pas Dieu, Romains 3, mais Dieu attire l'homme à lui afin qu'il puisse le chercher. Alors, Jésus, il dit dans Jean 6, 44, « Nul ne vient à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. » Alors, sans l'action du Père, personne ne va chercher Dieu. Avec l'action du Père, l'homme désire chercher Dieu. Ce n'est pas une contradiction, mais c'est une complémentarité. L'état naturel de l'homme, c'est la dépravation. Puis l'appel de Dieu, ce que les théologiens appellent ça comme ça, l'appel de Dieu, c'est, ils appellent ça la grâce prévenante. Alors, Dieu donne à tous les hommes cette possibilité-là d'entendre sa voix, puis de répondre. Alors, ils appellent ça, les théologiens, ils appellent ça la grâce prévenante. La réponse humaine est rendue possible, comment? Par l'intervention du Saint-Esprit. Bon, comment comprendre ça de façon simple et imagée? Imaginez quelqu'un qui est perdu en forêt. Par nature, il ne peut pas trouver la sortie par lui-même. Il est perdu. Quand notre fils Simon avait 14 ans, il était venu ici au Massif du Sud faire une excursion avec un groupe de jeunesse de l'Église. Et ils sont montés sur la montagne, le dessus de la montagne. Puis il y avait plein de chemins, de sentiers partout. Puis à un moment donné, Simon, il a pris du retard ou il n'a pas suivi le reste du groupe. Le groupe s'est comme dissocié et ils sont partis un peu de chacun de leur bord. Puis Simon, il a décidé qu'il redescendait de la montagne, mais il n'a pas descendu du bon bord. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, il s'est passé qu'il a passé la nuit dans la montagne. Puis, à ce moment-là, qu'est-ce qui est arrivé? On a appelé la police, c'est sûr. Les policiers sont venus. Il y a un véhicule de police qui a passé, qui marchait dans les chemins, qui roulait dans les chemins de la montagne, qui faisait marcher son gyrophare, sa sirène, le klaxon d'auto. Nous autres, on était en VTT, on se promenait partout, on criait. Pour qu'ils entendent la voix, puis qu'ils puissent venir. Viens, viens par ici, suis la voix. Écoute les sirènes de police, là, suis, va-t'en vers la sirène de police, vers les klaxons d'auto. Est-ce qu'il était capable de sortir tout seul? Non, il n'était pas capable. Il n'était pas capable, il faisait noir, il était perdu à la clarté. À plus forte raison, quand il a fait noir, bien, il était deux fois plus perdu. Alors, il s'est accoté sur un arbre, il a dormi. Puis, le lendemain matin, bien, les voix ont continué. Puis, là, il était capable de venir vers les voix. Alors, à un moment donné, qu'est-ce qui est arrivé? On était rassemblés à un endroit. Puis, à un moment donné, qu'est-ce qu'on ne voit pas sortir du bois? Mon Simon. Plus de lunettes, puis il manquait une espadrille. Alors, l'homme ne cherche pas Dieu tout seul, mais il répond lorsque Dieu l'appelle. C'est cet exemple-là, lorsque Dieu nous appelle, Dieu, on va voir que Dieu appelle tous les hommes. Parfois, il peut résister. Il entend la voix qui l'appelle, vient par ici, écoute la voix, suit les klaxons, les sirènes, mais il résiste. Peut-être qu'il a peur de perdre son confort. Alors, peut-être qu'il s'est réfugié dans une grotte, puis il se trouve bien, il pense qu'il est heureux comme ça. Ou il a peur du chemin à parcourir pour sortir, ou il a peur de ce qui l'attend lorsqu'il va être sorti. Mais l'homme, il a la possibilité de répondre lorsque Dieu l'appelle. Bon, qu'est-ce que ça signifie pour les croyants? Pour les croyants, avant d'être sauvés, avant de connaître, de répondre à l'appel de Dieu, chercher le salut, ça veut dire reconnaître son péché. Ça veut dire la repentance. Ça veut dire la foi. Adhérer à l'Évangile, croire la parole de Dieu, croire quand que Dieu parle. Alors, encore là, cette recherche-là, elle n'est pas naturelle. c'est le fruit de l'appel de Dieu, puis la grâce prévenante, comme je viens de vous en parler, c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui agit dans les cœurs. Puis là, dans ça, la grâce prévenante, on pourrait inclure la création, que l'homme voit la création, Dieu se révèle par la création. Alors, ça fait partie de la grâce prévenante. Si une personne pense qu'elle est venue au Seigneur parce que quand elle a entendu son appel, elle était assez bonne pour répondre positivement, elle se trompe. Si vous pensez que vous avez été sauvé parce que vous étiez bon, que vous aviez des bonnes dispositions, c'est une erreur. C'est une erreur. On peut penser ça au début de nos vies chrétiennes. Une fois sauvé, qu'est-ce que ça signifie? Chercher Dieu? Bien là, c'est complètement différent. Ça a un tout autre sens. Et ce sens-là, bien, on va le retrouver plus dans le Nouveau Testament, dans toutes les expressions, toutes les exhortations qui nous disent de venir à Dieu, de rechercher Dieu, entre parenthèses. Bien, c'est chercher sa présence. Chercher d'être dans la présence du Seigneur. Chercher sa volonté. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, Seigneur? À quoi tu t'attends de moi? Chercher sa communion, la communion avec le Seigneur, entre autres, dans la prière. Est-ce que je prie? Est-ce que vous priez chaque matin? Chercher la communion avec le Seigneur. Est-ce que vous êtes capable de vous courber puis de parler au Seigneur comme si le Seigneur y était à côté de vous, assis dans le fauteuil à côté de vous? La communion avec le Seigneur. Chercher sa force. Chercher sa force. Des fois, on a des épreuves, puis ça nous semble insurmontable. Ça nous semble insurmontable. Mais Dieu nous accompagne tout le temps lorsqu'on est chrétien, puis Dieu nous donne la force d'une manière ou d'une autre. Alors, ça, évidemment, ça nie pas que le premier mouvement vient de Dieu. Même si on est chrétien, puis qu'on cherche la présence de Dieu, on ne fait pas ça naturellement. C'est le Saint-Esprit qui agit en nous, qui nous incline à chercher sa présence. Bon, alors, est-ce qu'il y a une contradiction entre ces deux expressions-là? Chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve, puis tous les versets qui parlent de chercher l'Éternel, puis nul ne cherche Dieu. Non, il n'y a pas de contradiction. Il n'y a pas de contradiction. Sans Dieu, nul ne le cherche. Avec Dieu, l'homme peut répondre à la recherche. C'est Dieu qui provoque et suscite la recherche, mais c'est l'homme qui répond. Alors, c'est Romains 3. Dieu appelle tous les hommes à le chercher. C'est les prophètes et les évangélistes qu'on voit ça dans le Nouveau Testament. Le Saint-Esprit attire. L'homme est touché par la grâce de Dieu, puis finalement va devenir enclin à... Alors, le croyant continue de chercher Dieu dans sa vie quotidienne. Alors, il n'y a aucune contradiction dans ça. Maintenant, allons plus loin un peu. Et là, je ne veux pas vous partager ça pour vous mêler, parce que ça peut paraître un peu aride, mais je veux plutôt partager ça, si le cas étant que vous êtes mêlé, pour vous démêler, clarifier comme il faut le salut, la doctrine du salut. Alors, voici deux grandes façons d'expliquer comment Dieu sauve et comment l'homme répond à l'Évangile. Comme vous savez, dans les années 1300, début des années 1300, il y a eu une réforme protestante. La réforme des chrétiens qui se sont séparés de l'Église romaine pour des questions de doctrine. Le premier en tête de liste, c'est Luther. Et il y en a plusieurs qui ont suivi, mais il y en a deux qui sont intéressants parce qu'ils ont, émis des théories doctrinales, si on peut appeler ça comme ça, sur la doctrine du salut. C'est Jean Calvin et Jacobus Armelius. Bon, qu'est-ce qui a fait que la réforme a été rendue possible, puis que tout d'un coup, dans les années 1500, la fin des années 1400, les années 1500, tout d'un coup, il y a une foule de théologiens dans tous les pays d'Europe essentiellement, l'Allemagne, le Danemark, la Suisse, la France, l'Angleterre. Il y a eu des théologiens qui se sont appliqués à étudier les Écritures. Qu'est-ce qui a fait que ça a augmenté comme ça tout d'un coup, et non pas depuis plus... dans les 2000 prochaines, dans les 1500 premières années, bien c'est l'imprimerie. C'est Johannes Gutenberg, en 1455, qui a mis au point l'imprimerie. Puis ça l'a permis quoi? Ça l'a permis la diffusion des Saintes Écritures. Bon, maintenant, voyons qu'est-ce que ces deux hommes-là avaient à apporter au sujet de la doctrine du salut. Le premier, Jean Calvin, on appelle ça la théologie réformée. Jean Calvin, il y a cinq points. Les deux, ils ont cinq points doctrinaux qui sont importants en ce qui concerne le salut. Jean Calvin, son premier point, c'est la dépravation totale de l'homme. L'homme est spirituellement mort. Il ne cherche pas Dieu. Il ne peut pas croire par lui-même. Alors, les versets qu'on a mentionnés tantôt, Romains 3, Éphésiens 2, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Alors, ça, c'est la première de... premier point. Est-ce que je suis d'accord avec ça? Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Oui, on est d'accord avec ça. On est mort spirituellement. Deuxième point, ça concerne l'élection. C'est l'élection inconditionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu choisit certaines personnes pour le salut sans condition, sur la base seule de sa volonté. Non pas par la foi prévue, mais simplement sur la volonté de Dieu. Alors, les versets qui sont mentionnés par les tenants de cette position-là, ça va être comme, par exemple, dans Romains 9, verset 13, « J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. » Alors, il interprète ça comme si il y a des personnes qui sont élues, puis eux autres, qu'ils le veulent ou pas, ils vont être sauvés, puis l'autre à côté... il n'est pas sauvé, puis même s'il veut l'être, il ne pourra jamais l'être parce qu'il n'est pas un élu. Élection inconditionnelle. Est-ce que je suis d'accord avec ça? Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Non, on n'est pas d'accord avec ça. Mais en tout cas, moi, je ne suis pas, puis l'Église ici non plus notre confession de foi. On va voir pourquoi après, tantôt, d'autres possibilités. Alors, il y a des versets qui vont mentionner pour ça. Il dit, « Je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent. » Alors, ils vont dire, « Le Seigneur, il connaît ses brebis, puis c'est seulement ces brebis-là. Si tu n'es pas une de ces brebis-là qui est une élue, tu ne peux pas être sauvé. » La grâce irrésistible, ça, c'est le troisième point. Le quatrième point, c'est-à-dire. Quand Dieu appelle une personne, son appel intérieur ne peut pas échouer. La personne vient à Christ automatiquement. Si Dieu appelle la personne, même si elle ne veut pas, elle n'a pas le choix, elle va venir à l'Évangile parce que c'est Dieu qui a décidé qu'elle sera sauvée, puis elle va être sauvée. Et les versets, un exemple de versets qui vont... utilisé pour soutenir cette théorie-là, c'est Jean 6, 37. Là, je ne sais pas si tu m'as perdu, Yolande. Ça se peut que... « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Puis je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Alors, ceux que le Père a donnés, ils viennent automatiquement, obligatoirement au Seigneur Jésus. Puis ceux que le Père n'a pas donné ne peuvent pas venir. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Non, pas du tout. Et finalement, le cinquième point, la persévérance des saints. Ceux qui sont réellement sauvés persévèrent jusqu'à la fin. Alors, il va utiliser Jean 10, les versets 27 à 29. Il dit, Jésus, il dit, « Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. » Alors, si la personne est appelée, Jésus leur donne la vie éternelle, puis ils ne peuvent pas perdre de salut. Le salut est éternel, puis c'est impossible qu'ils perdent. Dans Philippiens 1, 6, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Alors, quand Jésus commence son œuvre dans le cœur de quelqu'un, il dit « va la rendre parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Est-ce qu'on croit ça? Oui, on croit ça. Quand on est sauvé, on ne peut pas perdre le salut. On va voir tantôt pourquoi. Bon, alors, la théorie de Jean Calvin, c'est Dieu qui fait tout du début à la fin. L'homme, il n'a pas son mot à dire, c'est Dieu qui décide tout. L'arminianisme, alors Jacobus Arminius, je ne vous ai pas dit tantôt les années, là, mais c'est dans les années 1500, puis ils sont morts jeunes les deux. Ça devait être difficile être théologien dans ce temps-là, parce qu'il y en a un qui est mort à 55 ans, puis l'autre à 49 ans. Alors, Arminius, son premier point, la dépravation totale, oui, il croyait ça, mais lui, il croyait à la grâce prévenante. L'homme est incapable de venir par lui-même à Dieu, mais Dieu donne à tous une grâce qui restaure et la capacité de choisir. Alors, Tite, au chapitre 2, verset 11, il dit ceci, c'est l'apôtre Paul qui parle, il dit « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. » La grâce de Dieu, c'est pour qui? Tous les hommes. Est-ce que parce que tu n'es pas un élu, tu n'as pas accès à la grâce de Dieu? Non. La grâce de Dieu est disponible pour tous les hommes. Dieu éclaire tous les hommes. Dans Jean, chapitre 1, le verset 9, l'apôtre Jean dit « Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. » C'est pour qui la lumière? Est-ce que la lumière ne se rend pas à certaines personnes? Non, la lumière est pour tout homme, ça éclaire tout homme. L'élection, on appelle ça conditionnelle. Alors, c'est les mêmes points que Calvin, les cinq mêmes points. Dieu élit en fonction de la foi qu'il a prévue d'avance. Alors, dans Romains chapitre 9, le verset 29, il dit « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être ses enfants d'adoption. » L'expiation universelle, Christ est mort pour tous, même si tous ne seront pas sauvés. Tantôt, j'ai sauté ce point-là, je pense sur Calvin. Calvin, lui, qu'est-ce qu'il disait? Jésus, il est mort seulement pour les élus. Si tu n'as pas choisi, le sang de Christ, il ne peut rien faire pour toi. Tandis qu'ici, Arminius, il ne croyait pas ça. Il croyait que Christ est mort pour tous. Même si tous ne sont pas sauvés, tous ont la possibilité, tous reçoivent l'appel, tous sont atteints par la lumière. 1 Jean, chapitre 2, verset 2. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais pour qui? Pour ceux du monde entier. Il s'est donné lui-même en rançon pour tous aussi. Un autre passage. 1 Timothée, chapitre 2, versets 3 et 4. Il dit « Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Alors, Christ est mort pour qui? Pour nous autres? Puis pour tous ceux qui viennent, pour tous ceux que Dieu il veut que tous ceux que tous parviennent à la vérité, que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Puis, le quatrième point, la grâce. Tantôt, on a vu que l'homme ne pouvait pas, avec Calvin, l'homme ne pouvait pas résister à la grâce de Dieu. Si Dieu t'a choisi, tu n'as pas le choix, tu ne peux pas résister. Ici, Arminius, il ne dit pas ça. Il dit l'homme peut résister à l'appel de Dieu. Dans le livre des Actes, au chapitre 7, le verset 21, c'est Étienne, c'est le discours d'Étienne. Puis il ne va pas avec le dos de la cuillère, il parle à ses compatriotes, les Juifs. Il dit, « Hommes aux courettes, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. » Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit, puis qu'est-ce qu'on sait? On sait que la nation juive n'a pas changé, elle s'oppose toujours au Saint-Esprit. Dans Matthieu, chapitre 23, le verset 37, c'est le Seigneur Jésus qui parle, « Jérusalem, Jérusalem, qui tue le prophète et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu te rassembler, rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses petits sous son aile et vous n'avez pas voulu? » Est-ce que l'homme peut résister à la grâce de Dieu? Effectivement, l'homme peut résister à la grâce de Dieu. Il y a des personnes qui sont arrosées par l'Évangile, à qui on a parlé, pour qui on a prié, qu'on prie, des amis, des personnes de nos familles, des collègues de travail, on a prié pour eux autres. J'ai des collègues de travail que j'ai prié pour, j'ai travaillé avec eux autres il y a 30 ans, puis à l'occasion, je prie encore pour eux autres, puis ils ne se pensent à rien. Puis c'est pas parce qu'ils n'ont pas la connaissance, parce qu'il y a quelques-unes d'entre eux autres que j'ai parlé comme faux de l'Évangile, c'est parce qu'ils résistent au Saint-Esprit. La persévérance conditionnelle. Alors, on a vu tantôt que si vous étiez un élu, que vous ne pouviez pas, perdre le salut, c'est impossible, vous étiez scellé, il n'y a rien qui peut vous faire perdre le salut. L'assurance éternelle du salut. Ici, Arminius, là, il y a une position assez différente. C'est pas surtout lui, mais c'est ses disciples qui ont suivi après lui. C'était la persévérance conditionnelle. Alors, le salut conditionnel à la persévérance. Dans Hébreux, chapitre 6, versets 4 à 6, il dit « Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, et qui sont tombés, soient encore renouvelés. » Alors, c'est un verset qui laisse croire que la personne était sauvée, mais elle ne peut plus être sauvée. Si elle tombe, elle ne peut plus être sauvée. Alors, dans les Saintes Écritures, il y a des versets, j'en ai relevé. 15 versets, il y a 15 versets qui, dans le Nouveau Testament, qui peuvent être interprétés de cette façon-là, qui peuvent être interprétés comme si le salut pouvait se perdre. Mais la doctrine du salut est supportée par des centaines de versets dans le Nouveau Testament puis dans l'Ancien Testament aussi. Alors, on ne peut pas prendre 15 versets, mal les interpréter. Souvent, les interprétations qui sont faites, c'est des mauvaises interprétations, puis ces mêmes versets-là peuvent être interprétés pour dire que le salut ne se perd pas. Alors, un exemple, c'est dans 2 Pierre. 2 Pierre, chapitre 2, versets 20-21, il dit, « En effet, si après s'être retiré des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau, ils sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première, car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connue du Saint commandement qui leur avait été donné. » Alors, sont retirés de la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, on peut se demander, c'est quelle connaissance? Est-ce que c'est une connaissance intellectuelle? La connaissance intellectuelle, ça ne sauve pas. Si vous avez une connaissance intellectuelle, vous savez les versets, vous connaissez les Écritures, vous savez les versets, ça ne sauve pas. Ce qui sauve, c'est la connaissance dans le cœur, c'est la connaissance relationnelle. Est-ce que Jésus-Christ, c'est vraiment mon sauveur? Est-ce que j'ai une relation intime avec le sauveur? Est-ce que lorsque je prie, je réalise que Jésus-Christ, il est mort à la croix pour moi. Il a donné sa vie pour moi. Pensez à ça, là. Vous êtes condamné à mort. Vous êtes dans le couloir de la mort. Vous avez vu des émissions, peut-être, pour ça, avec ça? Aux États-Unis, il y a des États où la peine de mort est encore valable. Puis, les condamnés à mort, ils sont dans une section spéciale, ils appellent ça le couloir de la mort. Puis que tout d'un coup, il y a un geôlier qui arrive, qui déborde la porte, puis il dit « Maintenant, tu es libre. » C'est ça qui s'est passé dans nos vies. C'est ça qu'on a besoin, qui arrive dans nos vies chrétiennes pour le salut. Puis ça, c'est pas juste théorique ou intellectuel, mais c'est dans le cœur. Bon, alors, James, veux-tu passer les petits papiers? Je vous ai fait un petit papier juste pour être sûr que vous allez être capable de comparer les deux. Alors, le calvinisme puis l'arminianisme. Alors, il y a les cinq points. Il y a l'état de l'homme, l'élection. Pour qui Christ est mort? La grâce. Peut-on perdre le salut? Puis finalement, l'ordre du salut. Alors, je vais laisser James passer ça. Alors, Calvin, il pensait que l'homme est mort spirituellement, puis qu'il est incapable de venir au salut par lui-même. Jacobus, lui, il pensait la même chose, sauf qu'en plus de ça, il pensait que les hommes, ils ont une grâce, il appelle ça la grâce prévenante, que Dieu leur donne une grâce à tous les hommes, Dieu a donné une grâce à tous les hommes, la capacité de pouvoir venir à lui. Ils sont perdus, ils sont morts spirituellement, mais Dieu leur donne une grâce à tous les hommes, Dieu met à la disposition de tous les hommes une grâce qui va permettre qui vont rechercher Dieu. L'élection, Calvin, si tu es sauvé, si tu es choisi, si tu es élu, tu vas être sauvé, tu n'as pas le choix, que tu veuilles ou pas, tu vas venir. Tandis que Jacobus, lui, ben, c'est la foi conditionnelle. C'est conditionnel à la foi prévue. Pour qui Christ est mort? Bien, Calvin disait que c'est pour les élus seulement. Tandis que Jacobus Amilius, lui, dit que c'est pour tous. Ils sont morts pour Dieu. Christ est mort pour tous. La grâce, Calvin disait que c'était irrésistible. Tu ne peux pas, si Dieu t'a choisi, tu ne peux pas résister. Tu peux pas. Tandis que Amilius, lui, croyait que l'homme peut résister au Saint-Esprit. Homme ou courette, vous résistez encore au Saint-Esprit. Peut-on perdre le salut? Il manque un mot ici, là. Peut-on perdre le salut? Non, on ne peut pas perdre le salut, selon Calvin. Et Jacobus, lui, il disait, oui, il y a certaines variétés là, de gens qui croient ça, des arméniennes, qui croient qu'on peut perdre le salut de différentes façons. Alors, nous, on ne croit pas ça. On croit que le salut est éternel. Oui, il y a des passages qui sont problématiques, mais le salut est éternel. Maintenant, l'ordre de régénération. Bon, ici, ça, c'est un petit peu abstrait comme notion. Mais Calvin, lui, qu'est-ce qu'il pense? Il pense que l'homme est régénéré, que Dieu, il fait le ménage dans le cœur de l'homme, puis à cause de ça, l'homme croit. L'homme n'a pas le choix, Dieu fait le ménage, puis Dieu transforme l'intelligence, puis là, l'homme croit. Tandis que Jacobus, il croit que c'est la foi. On croit, on entend la parole, on croit. Puis suite à notre foi, là, le Saint-Esprit vient dans nos cœurs, puis on est régénéré. Alors, nous autres, moi, c'est ça que je crois. Bon, alors j'espère que c'est assez clair. Est-ce qu'on peut être entre les deux, entre Calvin et Jacobus? Oui, certainement. Là. Il n'y a pas grand monde, dans le milieu chrétien, ici en Amérique, Amérique du Nord. Les calvinistes, il n'y en a pas beaucoup là, qui croient ça. Là. Il y en a qui ont, des fois, qui ont une tendance à ça. Il y en a qui disent, annoncer l'Évangile, ça ne donne rien. Si les personnes, Dieu a élu des personnes, puis peu importe que tu leur annonces l'Évangile ou tu ne leur annonces pas l'Évangile, ils vont être sauvés de toute manière. Moi, l'évangélisation, je n'ai pas un gros accent là-dessus. Si quelqu'un pose des questions, oui, mais autrement que ça, non. J'en connais des personnes comme ça. Alors, on peut être entre les deux. Originalement, Jacobus, il n'était pas sûr de la doctrine de la perte du salut. Il disait que ça nécessitait des études additionnelles. Bon, ma position ou notre position, elle est plutôt du côté de Arminius, Jacobus Arminius, sauf que on ne croit pas à la doctrine de la perte du salut. On ne croit pas à la perte du salut. Alors, ceux qui croient à la perte du salut, c'est parce qu'ils vont prendre quelques versets des Écritures, puis ils vont les interpréter de façon mauvaise. Et là, on n'a pas le temps de regarder ça ce matin, là, mais j'ai sorti 15 versets. 15 versets que les tenants de la doctrine de perte du salut vont utiliser. On va vous donner un ou deux exemples. Hébreux 6, le verset 4 à 6. Il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés et qui sont tombés soient encore renouvelés. Alors, ceux qui sont tombés, alors ce n'est pas nécessairement des chrétiens. Ceux qui ont été éclairés, une fois éclairés. Alors, la lumière, on a vu que la lumière éclaire tout homme. Alors, ceux qui sont éclairés, ça ne veut pas dire que c'est des sauvés. C'est des personnes qui ont goûté, même, il dit goûté à l'Évangile. Il y a des personnes, des fois, qui viennent à l'Église, ça leur fait du bien, ça l'a été, ils ont goûté. Un autre verset, Hébreux, chapitre 10, verset 26-29. Tu n'as pas ceux-là, je pense qu'il y a l'angle. Hébreux 10, verset 26-29, il dit, « Si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. » Alors, ils vont utiliser ça pour dire que le salut peut se perdre. Il y a 15 versets comme ça, j'ai fait des recherches, il y a 15 versets qui peuvent... Portez attention. Il y en a peut-être plus aussi d'autres, là, qu'il y a des personnes que vraiment, ils vont utiliser des versets puis tirer ça par les cheveux, trouver une manière de dire ça, là, que le salut se perd, mais... Bon, alors, à quoi ça nous mène, ça? C'est quoi les questions essentielles que je dois me poser suite à ça? Bien, la première question, c'est est-ce que je suis sauvé? Puis si oui, si je dis je suis sauvé, c'est sur la base de quel passage biblique? C'est sur la base, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors, si je dis que je suis sauvé, je vais te demander, quel passage, comment tu peux défendre cette position-là que tu réclames d'être sauvé par la parole de Dieu? Quand et comment ai-je été sauvé? Est-ce que c'est les émotions? Oh, et là, ça allait mal dans ma vie, puis là, il y a quelqu'un qui m'a parlé de l'Évangile, il m'a fait lire des affaires, j'ai pleuré, puis c'est là que j'ai été sauvé. Une fois, dans les premières, quand j'ai annoncé l'Évangile à Carole, je l'avais amené à l'église avant qu'elle soit chrétienne. Il y avait une conférence d'évangélisation, je l'avais amené à l'église, puis après la réunion, il y avait eu un appel. Carole avait répondu à l'appel, puis la dame qui lui a posé, qui l'a conseillé après, elle lui a parlé des Écritures, puis là, Carole était émotive, elle a pleuré. Après ça, quand la personne est revenue, la madame qui avait conseillé Carole, elle a dit, « Ah, je pense bien qu'elle est sauvée, elle a pleuré. » Non, ce n'est pas les émotions. C'est une décision rationnelle, puis il faut que ça descende au cœur. Est-ce que j'ai perdu mon salut? Il y en a qui peuvent penser ça. Si oui, sur la base de quel passage biblique? Est-ce que tu es capable de montrer des passages bibliques qui disent que toi, là, tu as perdu ton salut? Des fois, on peut avoir des doutes, surtout au début de nos vies chrétiennes. Le péché, qu'est-ce que ça fait? Ça amène des doutes sur notre salut. Un péché qui se répète dans ma vie, l'adversaire, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, hey, regarde donc ce que tu fais là. Tu vas me faire à quoi que tu es sauvé? Voyons donc. Alors, le péché peut semer le doute. Finalement, est-ce qu'il est trop tard? J'ai tout essayé, puis ça ne marche pas. Est-ce qu'il est trop tard? Non. Il n'est jamais trop tard. Puis, tout essayé, il y a juste une chose. Il y a juste une chose qui est importante à retenir, c'est que quand la parole de Dieu dit quelque chose, il faut que je le prenne comme la parole de Dieu, comme Dieu qui parle. Bon, finalement, le livre aux Hébreux, Hébreux chapitre 4, verset 7. Dans la période de Noël qui commence, on va commémorer la naissance du Seigneur Jésus. Mais si le Seigneur n'est pas né dans nos cœurs, ça ne sert à rien. C'est une commémoration mondaine. Si Noël, c'est juste le Père Noël puis les cadeaux, c'est mondain, ça ne sert à rien. Hébreux 4, 7, il dit, « Dieu fixe de nouveau un jour aujourd'hui en disant dans David, si longtemps après, alors l'auteur du livre aux Hébreux, il cite un psaume, il dit « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Est-ce qu'on peut endurcir nos cœurs? Oui, on vient de le voir que Jacobus, il croyait ça, puis nous autres aussi, on croit ça, qu'il y a des personnes qui peuvent endurcir leur cœur. « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Que Dieu bénisse sa parole.